Merci beaucoup et bonjour à tous. Commencer justement par les remerciements et merci à Muriel, merci à l'institution au musée de nous accueillir dans ce bel auditorium pour cette journée d'études. C'est la 18e journée d'études du projet PIND, Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France, qu'on va essayer de vous présenter avec Solveig. Donc 18e journée d'études fait partie de ces séries on essaie de délocaliser, hein, d'aller justement sur le terrain à la rencontre des acteurs. On va vous réexpliquer tout ça. Peut-être qu'on peut se présenter aussi parce qu'on connaît un certain nombre de personnes dans la salle, mais pas tout le monde. Donc moi je suis Luc Robben, professeur à l'Université de Bordeaux et également musicien. Voilà.
Et moi je suis Solveig Serre, je suis chercheur au CNRS, on va dire historienne et musicologue pour faire vite.
Voilà. Alors, on va prendre quelques minutes, enfin peut-être qu'on va essayer de cadrer un petit peu ce projet. Et puis ensuite, on démarrera la journée. Alors, vous avez le programme entre les mains, c'est assez dense. Et notamment, après nous, Estelle et Christophe présenteront un petit peu cette dynamique rouennaise. Et j'en profite pour les remercier aussi d'avoir organisé, porté avec nous cette journée d'études consacrée à la scène de Rouen. On y va. Donc on a une présentation un petit peu formelle du projet. Certains la connaissent, la présentation, on s'excuse, mais on essaye à chaque fois de vraiment expliquer ce sur quoi on essaye d'avancer ensemble collectivement.
Et comme on avance, on vous promet que la prochaine fois, on vous prépare une autre version. Alors, on va commencer par...
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonsoir et bonne année. Je vous adresse tous mes vœux.
Voilà, donc c'est les vœux de Valéry Giscard d'Estaing en 1976. Et au tournant des années 75-76, des radicalités sonores et rythmiques embrasent subitement, on va dire, le monde occidental. Dans un contexte de crise qui marque la fin des années de croissance d'après-guerre avec les deux chocs pétroliers de 73 et 79, une multitude de formations musicales, essentiellement blanches, sont désignées par les médias et l'industrie musicale ou s'autodésignent comme punk. Punk étant un vieux terme qui existe dès le XVIe siècle et qui signifie voyou, vaurien, prostituée, enfin quelque chose qui est du côté de quelque chose de pas très recommandable. Et qui appartient à toute cette série de mots en quatre lettres anglais qui désignent les jurons fuck, shit, punk. Après donc le dadaïsme, le situationnisme ou le surréalisme, le punk va s'imposer comme la dernière avant-garde du XXe siècle et adosse sa partition à la critique de l'establishment, Anarchy in the UK par exemple, des Sex Pistols, et au refus de toute forme d'autorité. Il inscrit son désespoir dans la provocation et définit ses propres perspectives d'avenir dans l'absence d'avenir, le fameux no future. Par sa philosophie du do-it-yourself, il constitue la matrice originelle du rock alternatif. Et enfin, il incarne un modèle de création en résistance qui se diffuse bien au-delà de l'épicentre occidental blanc depuis le début du XXIe siècle, porté par les luttes pour l'émancipation des jeunesses de tout pays, souvent au risque de leur liberté et parfois de leur vie aujourd'hui, Chine, Iran, Irak, Indonésie. Donc bien au-delà du centre blanc dont il était issu en 1976. Alors en France, ça donne quoi ?
Give me to where your arms belong! On refait des putains d'énormes juste aux merdes. Voilà que t'en t'es éliminé. Les radios nous machinent pour assurer leur salaire. J'en ai rien à foutre qu'une crève. Ils sont les meilleurs, c'est la légitime pour subvertir.
Bon, juste référence à Dick Edbige qui en 79 déjà décrivait, enfin musicologiquement parlant, analysait le punk et disait amalgame contre nature qui mêle les échos pailletés de David Bowie et du glitter rock, la rage des groupes proto-punk d'outre-Atlantique, le son gras du pub rock londonien inspiré par la sous-culture mode, le revival des années 40 de Coney Island, la puissance du rhythm and blues de Southend, le beat de la soul britannique des années 60 et les syncopes du reggae. Donc Edbige montre un petit peu cette espèce de mélange qui procède, duquel procède le punk au début, un punk qui se caractérise par la volonté de faire table rase hein, de l'histoire du rock, ou revenir en tout cas vers, même si c'est très idéalisé, vers une musique extrêmement simple. En témoigne cette citation que beaucoup connaissent ici, « This is a chord A, this is another E, this is a third G, now form a band ». Bon, trois accords, vous savez jouer trois accords, vous montez sur scène, vous faites un groupe, c'est comme ça, ça démarre comme ça. Alors, en France, le milieu des années 70, on a vu Giscard, hein, les vœux de Giscard portent encore les marques de la révolution de mai 68, se caractérisent par, enfin, politiquement, sociopolitiquement parlant, par des mouvements, minorités agissantes, mouvements de libération des femmes, de défense des homosexuels, groupes d'intervention sur les prisons avec Foucault, manifestations gauchistes, etc. L'amorosité ambiante liée à la crise économique, la forte hausse du chômage et les désillusions aussi du peace and love. La contre-culture des aînés. Et sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, l'explosion punk est marquée, alors très symboliquement, à l'été 76, par le premier festival punk du monde, hein, qui a lieu dans un lieu improbable, à Mont-de-Marsan, et qui va précéder de quelques semaines le rassemblement du 100 Club de Londres. Donc Mont-de-Marsan rassemble pour la première fois des groupes punk. C'est comme ça qu'on les désigne, en tout cas, ou qu'ils s'autodésignent, français, anglais, américain, suisse, pour un public, quand on lit la presse de l'époque, hein, c'est les hordes barbares qui vont déferler sur Mont-de-Marsan. Hein. Donc un public représenté forcément comme délinquant, violent, drogué, public qui vient des quatre coins de l'Europe. Et le punk incarne brutalement, pourrait-on dire, l'urgence, les promesses subversives d'une musique sans concession. Il devient l'expression première d'un rock hexagonal. Je crois que c'est bien de rappeler ici que cette vague punk en France, elle a participé quand même à révéler tout simplement la scène rock en France, qui s'affirme donc localement et s'affranchit des formes d'invisibilité auxquelles il était astreint jusque-là. Donc, notamment silence médiatique, hein, donc, absence de structure, de concerts, de locaux. Bon, il s'agit de jouer à tout prix, ici et maintenant, de chanter dans sa langue maternelle, alors de manière beaucoup plus évidente qu'auparavant, on va se mettre à chanter en français. Tout cela devient possible alors même que les médias vont commencer à s'emparer de ce qu'ils désignent comme un nouveau phénomène social.
Alors, le mouvement va trouver un premier achèvement en 1978, lorsque les groupes emblématiques se sabordent, c'est la fin des Sex Pistols en janvier 78, et qu'une grande partie des scènes occidentales donne le sentiment seulement, hein, c'est pas effectif, de se dissoudre dans ses propres contradictions, notamment la difficulté à gérer le succès, hein, parce que quand on a une idéologie punk et qu'on est complètement projeté en pleine lumière, c'est compliqué à gérer. On a fait une journée d'études là-dessus la dernière fois qui était consacrée à cette thématique de la réussite dans le punk, qui est un peu une notion compliquée. Et une partie des scènes a l'air de disparaître, débordée par le succès de mouvements musicaux comme la New Wave et le disco. Michel, assieds-toi. Pour autant, la dynamique punk va se réinventer avec l'émergence de nouvelles scènes qui se cristallisent autour de sons musicaux plus durs, de textes engagés politiquement, la narco-punk, hein, ça compense, et l'apparition de nouvelles catégories musicales, hardcore, oi, et également de nouveaux codes vestimentaires, le cuir clouté, la crête, etc. Alors, dans les années 80, les révolutions libérales et conservatrices correspondent à la naissance ou à la reconnaissance de groupes très engagés politiquement, Dead Kennedys, Crass, Exploited, etc. Et, tandis qu'en France, l'avènement de la gauche, donc élection de François Mitterrand en 81, avec toutes ces libertés nouvelles, les radios libres, la fête de la musique, la réduction du temps de travail, mais également les renoncements politiques rapides avec le virage de la rigueur en 83, sont contemporains de la montée du Front National. Et ce contexte sociopolitique va correspondre en France à l'émergence de groupes dont la musique va devenir le vecteur de messages politiques plus affirmés. On peut dire que la décennie est marquée par le slogan « La jeunesse emmerde le Front National » des Béru. Et tandis qu'en Europe, on est dans le contexte européen des années de plomb, marqué par la violence politique, action directe en France, les fractures sociales, la violence des rapports sociaux, montée du racisme, affaire du sang contaminé, naissance d'Act Up, etc., qui vont rentrer avec vraiment en résonance avec des manières de vivre et également des manières de faire vivre la musique, les réseaux, labels indépendants, etc., de lutter et d'exprimer une parole militante. Et ces années sont également caractérisées par des problématiques de fractionnement idéologique, on va dire, et sociopolitique au sein de la scène punk, avec par exemple l'hybridation des genres, punk, skin, etc., qui amène à questionner la teneur des discours et des luttes qui façonnent certaines postures extrêmes. Alors, on brosse très vite, hein, mais on ne peut pas faire autrement. Au-delà des années 90, donc dans un contexte mondial qui est caractérisé par la mondialisation, l'émergence d'Internet et du village global, et aussi par les grandes peurs, pollution, pandémie, famine, auxquelles répondent les grandes problématiques de l'agenda 21, écologie, santé, citoyenneté, les jeunes générations punk se renouvellent et imposent à la musique et aux formes de résistance un souffle nouveau. On voit apparaître des thèmes écologiques et militants, paradoxalement très proches des hippies et donc très éloignés du punk d'origine. Émergence également de segments plus radicaux, vegan, straight edge, etc. Alors que, évidemment, certains groupes plus anciens poursuivent leur route. Et c'est ce tuilage générationnel, à la fois musical, artistique et sociopolitique, qui enrichit le punk et qui le réinvente constamment, qui constitue justement le cœur de notre étude sur un temps long, qui est quand même 40 ans d'histoire. Bon, là, c'est une autre photo de Mont-de-Marsan, où on voit bien le tuilage générationnel. Vous voyez bien qu'on a encore les cheveux longs à côté des types qui ont les cheveux courts, etc. Alors, on va aller très très vite pour le reste.
Alors, on est parti d'un certain nombre de questions et de constats. Bon, pour le dire très rapidement, le projet s'organise autour d'horizons en quelque sorte. Par exemple, autour de cette question de l'illégitimité du punk, qui est une illégitimité autant sociale mais que académique. On cherche à faire franchir une nouvelle étape dans justement un processus de reconnaissance, de légitimation des formes populaires de la culture. On cherche à rendre cet objet visible et légitime. Alors, à la fois dans nos institutions, mais y compris dans le champ social. Deuxième aspect, le pourquoi de ce projet, c'est aussi parce que on est face à un objet vulnérable. Alors, à la fois parce que il faut faire surgir l'archive, on est face à une population vulnérable, les gens disparaissent, ne sont pas éternels, en particulier dans le milieu punk. Donc l'enjeu pour nous, c'est faire surgir l'archive, rencontrer, aller à la rencontre des acteurs, préserver, patrimonialiser le punk en France en s'appuyant sur un travail collaboratif entre acteurs et chercheurs. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a souhaité que toutes les journées d'études qu'on organise ne s'enterrent pas à l'université. L'intérêt pour nous, c'est d'aller à la rencontre de la scène punk en quelque sorte, et de ceux qui l'ont faite ou qui la font toujours aujourd'hui. Un objet problématique, on y reviendra, mais ce qui nous a semblé fondamental avant tout, c'est de considérer le punk sous l'angle de la scène punk, c'est-à-dire ce qui constitue la scène punk, musiciens bien sûr, on part de la musique, mais également acteurs locaux, labels, radios, etc. Tout ce qui constitue en réalité un réseau, un tissu autour de cette question de la scène punk en France. Trois hypothèses de recherche ont conduit au départ, parce que c'est un travail, c'est un work in progress, donc on est parti de questions qui étaient plutôt des paradoxes. La question du temps, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui avait posé pour hypothèse son absence d'avenir, no future, et puis 40 ans plus tard, qui est toujours là. Donc travailler autour de ces contradictions. Ça veut dire aussi éventuellement identifier différentes vagues, différentes générations, et regarder si on a comme ça une continuité ou des ruptures, etc. etc. Hein. Donc ce travail sur le temps est fondamental. Le deuxième travail, c'est travailler sur l'espace. Alors il y avait cette idée, on a posé pour hypothèse, et on y tient beaucoup, l'originalité hein, de la scène punk en France, qui n'est pas une simple copie ou une pâle copie de ce qui peut se dérouler au même moment aux États-Unis, en Angleterre. Donc on pose pour hypothèse cette question de l'ancrage sur un territoire. Et puis la question de l'espace, c'est aussi la question de la dynamique, c'est-à-dire la circulation des acteurs. La scène punk en France, c'est pas simplement ce qui se passe sur le territoire, mais c'est comment il y a une porosité des frontières, dans quel sens jouent les influences, par exemple, etc. etc. Enfin, un troisième niveau, c'est regarder aussi l'homogénéité ou l'hétérogénéité hein, de ce qui se passe sur le territoire. Bon, on a quand même là aussi un certain nombre d'hypothèses sur la manière par laquelle le punk est interprété, réinterprété localement, hein, aussi de quelle façon la culture punk, la musique punk peut s'hybrider avec des cultures locales, territoriales, je parle, le punk au Pays Basque ou le punk en Bretagne, etc. Donc regardez cette manière, cette forme de territorialisation du punk. Hein. Et au fond, enfin peut-être qu'on le dira aujourd'hui, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous le dire, quand on est punk à Rouen, c'est peut-être pas la même manière, c'est peut-être pas la même façon que d'être punk à Paris ou à Bordeaux ou à Rennes, etc. etc. Donc cette question de l'espace renvoie aussi à la construction des identités. Bien évidemment, et des rapports aussi entre centre et périphérie. Bon, donc vous voyez, la question est riche, la question de l'espace. Enfin, la question de la cohérence dans l'anarchie, c'était une manière de dire, bon, qu'est-ce que c'est que ce mouvement, au fond, qui prône l'anarchie, la déglingue, la cacophonie, le côté kaléidoscopique, mais un mouvement aussi pour lequel on voit bien qu'il y a des grands moments de cohérence. Et on cherche à travailler sur ces correspondances entre un son à un moment donné, un son, une manière d'être, des postures, un look, etc. etc. Ça permet de revenir sur la première question qui est celle de la temporalité, parce que, pour le dire très vite, le punk en 77, peut-être le punk et punk la nourrice, Valstar, la bière des stars, etc., c'est pas le punk des années 80, cuir clouté, c'est pas le même son. Bon, voilà. Donc, travailler sur ces systèmes de correspondance et montrer que finalement, dans le temps, il y a aussi des grands moments de cohérence, hein, des grands moments de convergence entre une musique, une esthétique, une manière même une manière de jouer sur scène. Hein, voilà. Et puis de jouer ou d'être dans le public, etc. etc. Donc voilà un petit peu la trame de départ, mais encore une fois, qui est une trame évolutive.
Alors là, je vais passer vraiment très vite. Pour l'instant, mais c'est en train de changer parce qu'on travaille. Hein, on avait organisé notre recherche en 8 chantiers. Donc je vais très très vite. Le premier, c'était l'historicité et la généalogie. Luc vient d'en parler. Donc c'est en gros comment on peut définir des grandes périodes qui ont des traits significatifs, qui se distinguent clairement des autres. Pour faire vite, une première période de 76, 78, 19, punk d'origine. Une deuxième dans les années 80 autour de l'anarcho-punk, donc la scène alternative, des revendications politiques plus marquées, et une troisième génération qui va des années 90 à aujourd'hui. Nous, on les appelle les baba-punk, mais c'est un raccourci sûrement rapide, avec des thèmes plus écologiques, un son plus homogène, des attitudes assez différentes de celles du punk d'origine. Voilà. Deuxième chantier, c'est celui du vieillissement et de la mémoire, parce que voilà, comment les acteurs ont continué à vieillir dans le punk? Il y en a qui en sont sortis aussi. Comment s'élabore ce travail de mémoire avec tous les enjeux de travailler sur la mémoire et la reconstruction de sa propre vie en permanence, hein, ce qui pose des problèmes. Voilà, les gens qui étaient très punk en 76, ils n'ont plus forcément envie de le dire. Donc voilà, on travaille aussi sur cette mémoire vive. Un troisième chantier qui est celui de la médiation et de la médiatisation du punk. Je modifierai cette diapo parce que j'oublie toujours de mettre un fanzine là-dedans. Comment est-ce que donc la scène punk a été relayée à la fois dans les médias officiels et du point de vue de tout le fanzina.
Comment on l'a présenté là, par exemple, Punk Story, pour ceux qui connaissent, en 77, c'est Rock and Folk qui présente le punk à travers les codes du roman photo. C'est très intéressant. C'est Stinky Toys en fait qui joue le rôle du groupe punk modèle. Alors c'est très humoristique, il y a beaucoup de détournements, mais en même temps, voilà, ça c'est, on est sur un processus de médiation là, très clair, c'est-à-dire comment la presse va s'emparer d'un objet et puis en faire en quelque sorte, les communiquer sur cet objet.
Donc, homologie musicale, esthétique et artistique, c'est le nom savant pour, voilà, pour parler des cohérences dans l'anarchie qu'évoquait Luc tout à l'heure, c'est-à-dire comment à une époque correspond un son, une pochette, enfin un style artistique précis, un look, etc., une posture. Un chantier spécifiquement consacré à la violence de la scène punk, supposé, fantasmé, symbolique, bien présente, etc. Comment cette violence s'organise, comment en fait cette violence est extrêmement normalisée. Voilà, tout un chantier là-dessus. Un autre chantier sur le corps du punk, qui est un corps qui évolue en fait, qui est un corps marqué, repérable, etc. Un chantier sur le genre, le genre du punk, c'est-à-dire la place des femmes, qui est beaucoup moins ouverte, enfin, qui est beaucoup moins. Les femmes sont. Contrairement à ce qu'on pourrait penser du punk, qui peut apparaître comme un mouvement ouvert, en fait, les femmes n'ont pas forcément une place de choix dans le punk. Et enfin, un chantier de synthèse qui consiste à cartographier tout ça. Et c'est notamment pour ça qu'on se balade sur le territoire et qu'on est là aujourd'hui. Alors ce projet, j'en parlais tout à l'heure avec Muriel, a la grande originalité en recherche d'être un projet collaboratif conçu avec les acteurs de la scène punk, donc en cohabitation, enfin, voire en collaboration. Son noyau dur, c'est vraiment les journées d'études, c'est-à-dire qui sont composées à la fois de communication scientifique, vous allez en entendre ce matin, et à la fois de débats avec les acteurs, le but étant donc de dialoguer les uns et les autres de manière ouverte et voilà et sans tranquillement, on va dire. Voilà, ça c'est des photos que Surinsky, notre photographe du projet...
C'est à Caen.
C'était à Caen, ça. C'était pour vous montrer la diversité du public. Voilà, donc notre équipe, c'est ce que je viens de dire, c'est une équipe qui est mixte, qui englobe donc à la fois des acteurs, des chercheurs venus de beaucoup de disciplines, des sciences humaines, anthropologie, sociologie, histoire musique, histoire de l'art, j'en ai sûrement oublié, voilà. Voilà, donc c'est des... C'est vous là-bas. On essaie aussi de faire... Vous voyez, là, c'était une journée qui était consacrée aux cultures visuelles et esthétiques. Et donc, Philippe Lyotard fait sa communication là-devant, pendant que derrière, Laurence, Magali et Michel font une peigne, en fait, créent quelque chose. On fait de la musique aussi, parfois. Il y en aura ce soir. Voilà. Alors, on fera aussi plus d'actions de sensibilisation maintenant là-dessus, mais là, pour l'instant, on n'a pas tout à fait fini la base de données. Donc, on a conçu une base de données collaborative, c'est-à-dire que tout le monde ici présent dans la salle peut remplir les données concernant les groupes ou les groupes de ses amis, etc. C'est assez facile de rentrer les données. Il y a beaucoup, beaucoup de champs, mais on n'est pas obligé de tous les renseigner. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir un tableau exhaustif en mobilisant les acteurs et les chercheurs de qu'est-ce que c'est la scène punk en France grâce à cette base de données. Voilà, alors ça c'est pour vous expliquer qu'il y a même des étudiants, il y a même des petits jeunes dans notre projet, il y en a dans la salle, là, Hélène, qu'on fait travailler en master, et puis on espère les avoir après en thèse, sur ces thématiques qui ne sont pas des thématiques prioritaires à l'université, en fait, vous vous en doutez bien. Voilà, bon là je vais passer très vite, mais... Ce qui apparaît en 2 ans, c'est qu'on entend souvent dire que la scène punk, c'est... Alors, il y a Rouen dedans, hein, mais on entend souvent dire que c'est Paris, Rouen et Lyon, et qu'à côté de ça, il n'y a rien. Nous, on est partis dans quelques villes de province et on a bien vu que c'était vraiment un propos à nuancer. On avait organisé une journée d'études sur punk des villes, punk des champs, qui a également fait apparaître que y avait beaucoup de... Les campagnes avaient été aussi massivement touchées par le punk. Et donc, l'un des premiers résultats du projet, c'est de montrer qu'en fait, le punk a émergé sur la globalité du territoire et pas du tout, c'est pas du tout condensé dans 3 villes. De la même manière, qui ne s'est pas du tout condensé que en. Enfin, il n'y a pas, c'est que pas forcément que Paris, mais aussi toute la banlieue.
Bien, alors la collecte d'archives, c'est, si je puis dire, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que le projet a pour vocation je le disais tout à l'heure, de faire émerger ces archives, parce que les archives de la scène punk en France, elles ne sont pas conservées aux archives nationales, elles ne sont pas conservées aux archives municipales, donc ce sont les acteurs qui les détiennent, et c'est pour ça qu'on part à la rencontre et des acteurs de la scène, et le projet a pour vocation de rassembler ces archives. Alors, soit que les gens nous les confient, pour les conserver au premier sens du terme, soit que nous puissions les numériser afin, à terme, de construire, de mettre en place un grand centre d'archives sur le punk et peut-être plus largement sur les cultures alternatives. Donc là, on a vraiment, c'est ce qu'on dit sur la page d'entrée du site, on a besoin de vos archives. On a besoin de vos archives pour participer à la construction de cette histoire, parce que pas d'histoire sans trace, hein, vous connaissez c'est pas magique l'histoire. Si on veut écrire l'histoire, il faut des archives, il faut travailler sur des archives, hein. Et donc on a besoin de vos archives, si je puis dire. Donc ici, à titre d'exemple, les photos montrent alors un travail sur un premier fonds d'archives sur les archives des Salles Majesté. Ils nous ont confié leurs archives. On a 30 ans d'archives des Salles Majesté, c'est-à-dire démos, photos, coupures de presse, pressbook, setlist, etc. Tout ce qu'on peut imaginer comme étant la substance même de la mémoire et de l'histoire d'un groupe. Hein. Les deux autres photos concernent en réalité les archives de Radio Éphémère, Radio Libre Historique de Toulouse. Et on voit en photo Dominique et Monique qui font partie de notre équipe. Dominique s'occupe du son, on en redira un mot. Éphémère nous a confié 14 mètres linéaires d'archives, c'est-à-dire toutes les archives de la radio. Donc je le redis, acteur historique, parce qu'on oublie souvent que 81, ça a été un moment important d'ouverture des ondes, au moins dans un premier temps. On pouvait parler de radio libre, après, on pourrait questionner. Mais avec Éphémère, on a à la fois l'exemple d'une radio qui a été un acteur majeur de cette culture punk, de cette musique punk, à la fois en tant que radio, mais aussi organisateur de concerts, etc. Programmateur de concerts, programmateur d'événements, sur tout ce qui est alternatif, sur la culture. Bon. Donc pour nous, c'est très intéressant. Et en même temps, je vous montre que les archives, c'est celles des groupes, mais aussi d'autres acteurs. Si on peut récupérer les archives d'un label, par exemple, ça nous intéresse aussi, bien évidemment. Et encore une fois, je le redis, c'est vraiment le noyau dur du projet, parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire sans archives et sans traces. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous fondamental. Et en plus, une question d'urgence.
Voilà, et en plus, on vous les trie, on vous les range, on vous les... Voilà, elles sont bien mises dans de beaux cartons, protégées. Donc on fait ce travail-là qui est nécessaire. Avec aussi la radio, par exemple, on a rendu à Éphémère la moitié des cartons parce qu'on a désherbé et on a gardé... Enfin, tout ça, c'est en ligne.
Désherber, ça veut dire jeter ce qui est en double, en triple, etc. Faire le tri, reconditionner, en fait.
Là, vous voyez, alors c'est aussi un projet où on ne fait pas forcément que de la science. Là, c'est un de nos chercheurs spécialistes en fanzine qui avait fait un mur de fanzine justement pour la journée d'études à Caen. Sue, notre photographe, qui organise régulièrement des expositions sur, on va dire, plutôt la scène punk actuelle pour l'instant, mais voilà, qui réfléchit à la fois sur ses propres pratiques à travers ce projet et le documente de manière... je ne vais pas dire non artistique, mais de manière documentaire, comme elle fait aujourd'hui en prenant des photos de nous qui ne sont pas des photos d'art. Voilà, alors ça, c'est nos partenaires. Donc, on est pour l'instant en partenariat avec l'École des Chartes pour tout le volet patrimonial, avec l'Agence nationale de la recherche qui nous finance et nous permet aussi d'être là aujourd'hui, avec FGO Barbara, qui est une espèce de maison des jeunes et de la culture à Paris, dans un quartier difficile qui est la Goutte d'Or et qui nous héberge pour toutes nos rencontres thématiques à Paris. La Fanzinothèque de Poitiers, qui est très très désireuse, va falloir qu'on y aille un jour sérieusement travailler sur les fanzines.
La Fanzinothèque, c'est plusieurs milliers de fanzines, pas que sur le punk évidemment, mais beaucoup sur le punk.
Voilà, et la Philharmonie de Paris, qui est partenaire depuis le début du projet, qui nous accueille temporairement pour des
et
plus gros événements.
Des liens à l'international, parce qu'on a commencé à nouer des liens sur des projets un petit peu similaires, comme le Punk Scholar Network, donc les Anglais, qui ont eux-mêmes, sur leur propre scène, lancé ce type de projet. Il y a quelques autres projets, il y en a au Portugal, il y en a... Bon, voilà. Donc on a l'ambition de continuer, nous, à travailler sur la scène punk en France.
Alors, nous avons donc maintenant un site internet qui fonctionne, sur lequel il y a notamment les captations sonores de toutes les journées d'études qui ont été organisées depuis la troisième, parce qu'avant, on ne connaissait pas Dominique, donc on n'avait pas de capteur son. Voilà, vous pouvez tout y trouver. Il y a toutes les publications des membres de l'équipe, les émissions de radio qu'on a faites à l'occasion. Voilà, et il s'enrichit tous les jours un peu plus.
Vas-y. Alors, pour terminer, PIND, c'est quoi ?
C'est l'acronyme de Punk is not dead, Punk pas mort, le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
C'est un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 1977 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois même, mais toujours pour comprendre. Et on vous remercie, on a essayé de faire une présentation synthétique. Après, dans la journée, on pourra répondre aux questions que vous posez, mais on va peut-être commencer directement... on va enchaîner plutôt avec la scène de Rouen. Et donc, encore merci de votre attention.